Grand Angle sur Radio Orient.
C'est le grand angle de ce mercredi. De violents affrontements ont de nouveau opposé des groupes armés rivaux à Tripoli, en Libye. Cela après des combats. Ces derniers jours, combats qui ont fait au moins 6 morts. Des affrontements à l'arme lourde après que Abdelrani Reniwa El-Kikli, chef de l'autorité de soutien à la stabilité, aurait été tué dans une embuscade. La Libye reste déchirée entre clans rivaux. Qui sont ces clans rivaux? Entretien avec Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de « Géopolitique de la Libye » aux éditions Bibliomonde.
On est dans le cas de la Libye, d'un pays qui est totalement fragmenté depuis l'assassinat du colonel Kadhafi et la chute de son régime. Donc on est dans un pays éclaté, fragmenté, entre différentes factions rivales qui ont mis le pays en coupe réglée pour des intérêts particuliers, claniques, tribaux, et l'idéologie, puisque c'est la question que vous posez, là-dedans, finalement, ça voudrait dire avoir des idées. Or, on voit assez peu émerger, ou en tout cas, on entend rarement ou pas, des personnes ou des personnalités libyennes qui parleraient de projets ou d'idées ou de valeurs communes qu'ils pourraient proposer à leurs compatriotes. Donc, je crois qu'il s'agit surtout parfois de clans mafieux, voire tribaux, ou, dans le meilleur des cas, de milices rivales qui tentent de maintenir leur influence sur quelques kilomètres carrés, que ce soit dans la capitale Tripoli ou dans certaines villes du pays.
Et qui était Abdelrani El-Kikli, appelé Reniwa, le chef de l'autorité de soutien à la stabilité, qui aurait été tué dans ces combats?
C'était un homme visiblement aujourd'hui assez influent, puisqu'il avait réussi à faire nommer à des postes importants de l'administration de la Tripolitaine dans le gouvernement de M. Dbeiba, des proches, et visiblement, il devenait ou gênant ou embarrassant. En tout cas, son influence grandissante a inquiété suffisamment de personnes rivales, de ses rivaux, pour que son assassinat soit commandité. Et puis, il avait aussi l'ambition d'étendre son influence au-delà de Tripoli. Et on le voit d'ailleurs, l'une des premières décisions du ministère de l'Intérieur a été de dérouter les avions de ligne du tarmac de Tripoli, la capitale libyenne, vers la grande ville de Misrata, hein, la grande ville commerçante, puissante et influente elle aussi, parce que c'est visiblement là que Kikli voulait envisager en tout cas de prendre un envol politique. Alors peut-être était-il perçu comme un rival pour l'actuel Premier ministre, peut-être était-il aussi perçu comme un rival par d'autres chefs de clan, de milices ou de tribus. Bon, donc l'enquête peut-être le déterminera, si tant est qu'il y ait enquête. Et deuxièmement, on est aussi là fort en peine de comprendre à quoi servent les Nations Unies, puisqu'ils sont sur place, qu'ils sont présents, mais qu'ils ne parviennent toujours pas à donner ou à redonner ou à permettre à la Libye de retrouver une certaine stabilité, puisque cette instabilité aujourd'hui en Libye est chronique depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011.
Et comment la population vit cette situation? Quel est l'impact, notamment social, pour la population libyenne?
Je parlais avec un ami hier soir qui est à Tripoli et qui est universitaire et qui me disait que la question, évidemment, c'est celle de la sécurité, hein, c'est quand même fondamental, sortir et savoir qu'on pourra rentrer chez soi sain et sauf. Et deuxièmement, le pays est mis en coupe réglée, c'est-à-dire que y a peu de choses qui fonctionnent, et ce qui fonctionne l'est ou continue à l'être uniquement parce que cela représente un intérêt économique, financier, clanique, politique immédiat pour ceux qui détiennent les armes. Donc, tant qu'on n'aura pas réussi à désarmer les tribus, les clans, les milices, on parviendra à rien parce qu'on ne pourra pas enclencher un véritable processus politique pour aboutir ou pour aller vers des élections. Et tout est aujourd'hui conditionné à ce postulat.
Pour le moment, le processus électoral est en stand-by.
Oui, on n'imagine pas. D'ailleurs, vous voyez cet énième épisode, même si la Libye avait connu une relative accalmie depuis maintenant plusieurs mois, voire années, il est difficile d'envisager ce processus politique. Encore une fois, un processus politique, ça nécessite un minimum à la fois de stabilité, de légitimité de la part de ceux qui ont à gérer cette transition. Et troisièmement, ça nécessite aussi de pouvoir circuler, s'exprimer, contester, contredire en toute sécurité. Là, il ne semble pas que ce soit encore le cas en Libye.
Et est-ce que la population bénéficie des revenus pétroliers ?
Marginalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'évaporent entre les exportations et ce qui rentre réellement dans les caisses de l'État. Il y a une énorme corruption, donc les bénéfices pour la population sont assez marginaux. Et puis on voit aussi que c'est un pays qui aujourd'hui connaît des pénuries qui n'avaient jamais eu cours du temps du régime de Kadhafi. Non pas que ce régime soit particulièrement recommandable, ça n'est pas le cas, mais le colonel Kadhafi avait une fonction qui était celle de la régulation à tout point de vue, d'abord en interne, et puis sur le plan exogène, il a très largement contribué à stabiliser son environnement géopolitique, saharien, sahélien, africain et aussi maghrébin, sur des sujets que l'on connaît bien aujourd'hui, qui sont le terrorisme et les questions migratoires. Et la chute de ce régime a ouvert une boîte de Pandore que personne aujourd'hui n'est plus capable ou ne veut pas, je ne sais pas comment il faudrait le dire, ne veut plus envisager de revenir à une situation de stabilité, parce que là encore il faut quand même un minimum et de convergence de la part de l'ONU et des pays qui jouent un rôle en Libye, et en même temps se mettre d'accord sur le fait que le premier impératif, c'est de faire cesser la circulation des armes et la remise des armes à un gouvernement dont le rôle pourrait être, même s'il est transitoire, il s'agit de sortir de cette instabilité pour aller vers une assemblée constituante et puis des élections, ce qui donnerait une véritable légitimité politique à ceux qui auraient à gérer leur pays. Aujourd'hui, on est très loin de cette hypothèse.
Et là, les instances internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, n'ont aucun pouvoir, aucune influence.
On le voit encore aujourd'hui, se contente, après l'assassinat de Kikli, de communiquer, voilà, et de rappel, ce qui ne coûte pas très cher, des principes. Oui, les principes, c'est très beau, mais tout de même, il faudrait pouvoir arriver à les faire appliquer. Et pour cela, il faut avoir un interlocuteur en interne en Libye. Et pour le moment, il y en a au moins deux, plus auxquels il faut ajouter deux gouvernements auxquels il faut ajouter pléthore, encore une fois, je le dis et le répète, de milices, de clans, de tribus qui veulent préserver leurs précarés et leurs intérêts locaux.
C'était Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de Géopolitique de la Libye aux éditions Bibliomonde. Fin de ce grand angle. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.